Radio Django, La Rose des Vents.
Deuxième rubrique de votre soirée, de votre grand direct ce soir avec La Rose des Vents, et j'accueille autour de la table Issa, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu es membre de la rédaction vaudoise de Voix d'Exil. Alors, Voix d'Exil est un média confectionné par des migrants dans le cadre d'un programme d'intégration intercantonale regroupant les cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel.
En effet, oui.
Alors, Isa, tu t'intéresses aujourd'hui à l'engagement bénévole de citoyens suisses auprès de requérants d'asile. Et notre invité ce soir, c'est Michel Campiche. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur les ondes de Radio Django.
Merci.
Alors,
merci.
Vous êtes médecin et octogénaire à la retraite et vous vous investissez activement auprès des requérants d'asile fraîchement débarqués à Lausanne. Alors ce soir, on va sonder avec vous les raisons de votre engagement bénévole auprès des requérants d'asile et votre vision actuelle du phénomène de la migration qui obnubile aujourd'hui l'attention publique européenne. Isa, c'est à toi.
Bon, moi, dans un premier temps, j'aimerais dire que nous avons constaté que depuis un certain temps, le thème de la migration occupe une grande place dans les médias suisses. D'autre part, les mouvements de solidarité se développent un peu partout, comme pour dire que la tradition humanitaire de la Suisse est toujours vivante pour les migrants. Alors, c'est pour cette raison que nous avons invité, en fait, Monsieur Michel Campiche, que nous avons constaté son engagement et tout ça. Alors, et aimerait quand même connaître beaucoup plus sur son parcours et tout. Donc, Monsieur Michel, pour une première question, on aimerait savoir connaître votre âge, votre parcours universitaire, votre vie familiale et loisirs éventuellement.
J'ai 83 ans. J'étais médecin, j'ai fait ma médecine ici à Lausanne, et puis j'avais l'intention de me diriger vers la médecine générale ou la pédiatrie, et puis le hasard a fait que j'ai été dirigé vers le laboratoire. Et j'ai fait toute ma carrière en pathologie, où je m'occupais de microscopie électronique, c'est vraiment l'étude du tout petit. Et j'ai beaucoup enseigné aussi, ce que j'ai apprécié. Du point de vue familial, je suis veuf depuis 7 ans, j'ai 3 enfants mariés qui sont certains d'entre eux déjà grands-parents. J'ai 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Mon engagement auprès des requérants, c'est la prochaine question que tu me poses.
Oui, j'aimerais connaître comment l'idée de vous engager dans ce bénévolat vous est venue et pourquoi l'association auprès des migrants de Valorbe, l'Aravo.
Alors, première chose, mon premier contact actif, ça a été lors de la guerre du Kosovo en 1999, où de nombreux migrants étaient logés tout près de chez moi dans un abri de protection civile à Lutry. Et j'avais fait avec un ami kosovar qui travaillait comme serviceman dans un garage, nous avions fait ensemble un petit lexique albanais-français qui a été très bien accueilli. C'était une paille, si on veut, mais ça rendait service. Alors, voilà, ça, c'était mon premier engagement. Ensuite, il y a eu une période pendant laquelle je ne pouvais pas m'engager, pour des raisons de famille, la santé de ma femme. Et j'ai été mis en contact avec l'Aravo de Valorbe, c'est l'association des requérants d'asile, auprès des requérants d'asile de Valorbe, écuménique et humanitaire, par ma fille qui est pasteur et qui travaillait à l'aumônerie de Valorbe. Elle a été très active dans ce domaine et je suis devenu membre de cette association. Ensuite, j'ai adhéré à un groupe qui s'occupe des requérants débarqués de Valorbe à la gare de Lausanne au train de 9h26 et de 10h26. Ils partent pour un des 32 endroits où on les envoie en Suisse. Depuis là, ils seront encore réenvoyés plus tard. Et ils sont perdus en général, leur expérience du train dans les gares suisses est très limitée, ils ne parlent souvent pas du tout le français, et nous sommes là pour les repérer d'abord, les trouver et les guider, les mettre dans le bon train et leur donner des indications sur la ville où ils arriveront, un plan de la ville où ils seront.
Est-ce que vous n'avez pas des difficultés par rapport à la communication avec ces personnes qui parlent d'autres langues ?
Bien sûr. Moi, j'ai la chance d'être de langue maternelle anglaise. Littéralement, ma mère était anglaise. Et l'anglais est la langue de communication la plus fréquente. Mais je me suis mis à apprendre quelques mots de tigrinya, la langue des Érythréens, quelques mots d'arabe qui rendent service aussi. Et il faut se débrouiller avec tous les moyens qu'on a.
Tout à fait.
Je ne dirais pas que la langue est une barrière, parce que l'anglais est très utilisé par beaucoup de gens, même s'ils le parlent mal.
Alors, par rapport aux activités que vous faites, au sein de la RAVO, est-ce que vous pouvez nous, énumérer quelques activités par rapport à ça?
Donc, à la RAVO, ce travail, c'est l'accueil à la gare de Lausanne. Ouais. C'est vraiment ça. Uh-huh. Et ça peut aller loin, parce que j'ai un cas, par exemple, d'une jeune femme que j'ai accueillie il y a très exactement 2 ans, c'était le 20 septembre. Elle était à la veille de son accouchement, elle débarquait très dépressive, venant du Kosovo. Son bébé est né le lendemain. Et nous allons fêter les 2 ans du jeune Berin, le dimanche du jeûne. Depuis là, je l'ai suivie. Elle a eu de très gros problèmes psychiatriques. Elle est suivie à ce point de vue-là. Elle aurait dû être renvoyée au Kosovo depuis longtemps, mais son état psychiatrique a fait qu'elle est encore là. Je ne sais pas pour combien de temps.
L'activité football.
Alors ça, c'est un tout autre domaine. Mm-hmm. C'est l'activité d'une petite association qui s'est créée il y a 3 ans et demi à Puy. Un centre de protection civile avait été ouvert pour des requérants, à la Dame à Terre, une 50aine de places, des jeunes hommes. Et nous y avons été actifs depuis le début pour, un, leur rendre visite, faire connaissance, établir des contacts. Et puis, deuxièmement, essayer de leur offrir quelque chose d'autre. C'est très difficile d'avoir un lieu en dehors de l'abri pour des raisons locales à Puy, mais nous leur rendons visite chaque semaine. Nous organisons une fois par mois un petit déjeuner festif dans l'abri. Et puis notre atout, ça a été le fait que la ville de Puy nous a accordé l'usage de son centre sportif de Rocheta, où nous allons tous les mardis. J'étais ce matin à Rocheta, il y avait une 15aine d'entre eux qui étaient là, tous des Érythréens. Et c'est une manière de se défouler, de s'amuser. Nous leur offrons aussi une petite collation à la fin de leurs exercices.
Voilà, donc, vous arrive-t-il d'encourager vos camarades à s'investir dans le bénévolat après les retraites?
Alors, bien entendu, mais pour les retraités, alors là, le problème, c'est leur situation physique. J'ai des camarades de gymnase ou d'études, mais beaucoup sont dans un état un peu avancé, disons, si bien que c'est pas là que je vais recruter. Mais on essaye de recruter des gens d'une manière ou d'une autre pour ces activités, que ce soit dans le cadre de l'abri de la Dame à Terre ou dans le cadre du travail à la gare de Lausanne.
Alors, quelle lecture faites-vous de ce mouvement humain qui déferle vers l'Europe et particulièrement la Suisse?
C'est une vieille histoire. Ça a commencé déjà, par exemple, avec les Huguenots au XVIe siècle. Et puis, il y a eu d'autres. La révocation de l'édit de Nantes a renvoyé des gens au XVIe. Et ensuite, beaucoup plus récemment, nous avons eu, par exemple, l'émigration des Tchèques en 68, après le printemps de Prague. On a eu les gens qui venaient du Chili, après l'assassinat de Allende. Et on a eu donc toute une série de vagues migratoires, les unes après les autres. Les choses se sont, depuis une année ou deux, nettement accentuées, et nous assistons actuellement à une vague de migration qui est la plus importante qu'on ait eue depuis 1945. C'est un phénomène immense qui est dû à des situations horribles dans certains pays. On a comparé l'Érythrée à la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord de l'Afrique, et c'est vrai. Les interventions occidentales dans certains pays se sont révélées catastrophiques. Je pense à l'attaque de 2003 en Irak par les États-Unis, qui a créé le chaos qu'on connaît encore maintenant. Que faire? On ne peut pas agir sur ces endroits-là. Ce n'est pas à nous d'agir. Il faudrait qu'on convainque nos gouvernements d'appuyer moins les tyrans qui exploitent leur peuple. Il faudrait qu'on convainque les multinationales de ne pas jouer le rôle néfaste qu'elles jouent souvent. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre acte de l'arrivée de ces malheureux et les aider dans la mesure du possible. On ne peut rien faire d'autre.
Donc, le bénévolat, selon vous, est-ce un sacerdoce ou bien une occupation?
J'aime pas le terme de sacerdoce parce que, non. C'est une occupation, mais c'est une occupation qui se base sur l'ouverture aux autres.
Et en don de sa personne.
Et pardon?
Un don de sa personne.
Si
aussi.
On veut, oui, mais c'est un échange. Moi, je reçois énormément des gens que je rencontre. Vraiment, c'est un système d'un aller-retour. Donc sacerdoce, je dirais non. Occupation, pas passionnante, oui, mais il faut avoir une ouverture sur l'autre, il ne faut pas avoir peur de celui qui est différent. Et nos concitoyens, trop souvent, ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas.
Voilà pour ma dernière question. J'aimerais dire que, peut-on savoir ce que ça donne tout ça? Par exemple, souvent on dit que le bénévolat ou bien le volontariat n'a pas de salaire. Moi, personnellement, je dis qu'il y a un salaire. Et quel est selon vous ce salaire?
Moi, j'ai le salaire au point de vue financier. Non, mais moi, j'ai une retraite confortable, je n'ai pas de problème. Mais salaire, tu entends, ce qu'on reçoit.
Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que, qui a été un peu subtil, qui dit que le salaire, c'est en fait le don de ses capacités, mais aussi on en retire une identité, une satisfaction personnelle, un développement social. Il y a quelque chose qu'on peut gagner par rapport à ça.
Alors, les échanges qu'on a sont certainement très, très... très intéressant et très bénéfique, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas toujours avoir un résultat qui marche. Il faut être fataliste, il faut accepter que des fois, l'échange ne peut pas avoir lieu. J'ai une vieille devise, à ce point de vue-là, c'est « hic et nunc », ici et maintenant. Ce que je fais, je le fais là où je suis, ici, et je le fais au moment où, où j'y suis. Je ne peux pas continuer à les suivre une fois qu'ils sont partis à Zurich ou à Chiasso ou à Kreuzlingen. Je ne peux pas. Mais au moment où je les vois, c'est là que, j'essaye d'aider. Et c'est extrêmement intéressant et ça apporte beaucoup de satisfaction.
Merci beaucoup, Michel Campiche, médecin retraité, je le rappelle, d'avoir partagé avec nous ce soir votre expérience et, comme vous l'avez dit, votre occupation hein, par le bénévolat et auprès des requérants d'asile. Et puis je remercie également Issa pour la préparation de cet entretien.
Merci.
Est-ce que je peux dire encore un mot? Je profite de cette occasion, on ne sait jamais, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui auraient envie de s'engager d'une manière ou d'une autre. Je suis prêt à répondre à leurs questions, que ce soit pour un travail à la gare ou pour un travail dans auprès de l'un ou l'autre des centres où se trouvent des requérants.
Bien, eh bien, on mettra vos coordonnées sur notre site et également sur le site de Voix d'Exil que je me permets de vous relayer, www.voixdexil.ch. Donc c'est un blog qui offre une autre vision sur les requérants d'asile. Et puis tous ces liens sont à retrouver, tout comme le podcast de cette chronique, sur django.fm. Merci beaucoup, messieurs.